Ladies and gentlemen,
l'œil de l'expert rugby. Analyse, commentaire et blablabla.
Vas-y.
On va parler rugby, avec Philippe. Salut Philippe.
Salut, comment vas-tu?
Toujours confiné, bien sûr.
Ouais. Donc, là on est confiné, mais enfin, ça nous a pas empêché de regarder ce match et manifestement, presque sans pouvoir de savoir que notre équipe à Genèse est restée en rade dans la rade de Toulon, bien sûr. Et après tout n'est pas négatif. Il y avait réellement une grande marche, une grande différence entre les deux équipes, que ce soit techniquement, en termes de gabarit, en termes d'organisation. Agen est un petit peu actuellement une équipe qui évolue à la rame, alors que nous avons les gros chaluts toulonnais qui sont arrivés à Armandie. Des satisfactions quand même. Je citerai au moins cette vaillance qu'ont mis les Agenais, parce qu'on ne peut pas dire que tout n'a pas été fait pour nous puissions exister dans ce match. Nous avons d'ailleurs existé dans ce match, mais ce sera, je l'espère, pas tout le temps, mais c'est pour l'instant toujours le problème, c'est qu'on arrive à tenir jusqu'à la 50e, à la 60e, et puis après les bancs n'étant pas chargés des mêmes bus dans chaque équipe, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire que la loi du plus fort se met en place. Malheureusement, là où il y a quelques années, avec quelques individualités, on arrivait à contrer cette loi du plus fort, pour l'instant, on a beaucoup de mal. Alors, beaucoup de mal parce qu'on est dans le dur, et tout est dur. Dur, ce sont les résultats. Dur, c'est de plus avoir de coach. On est actuellement en autogestion. Dur, c'est aussi le nombre de blessés. Il faut pas le manquer, parce qu'il y a quand même vraiment la poisse sur cette équipe à Genèse. Je regardais par exemple contre Toulon, il manquait pas moins de 12 joueurs susceptibles de jouer en un. Alors je vous les donne. Red, Pierce, Ibitoy, Sadi, Bartomeuf, Lamouli, Raphaël Lagarde, Jordan. Il manquait beaucoup de joueurs qui pourraient, sans compter la blessure de Lamouli qui a fait un petit aller-retour pour laisser une épaule sur le carreau. Alors est-ce que c'est le surmenage? Est-ce que c'est fatalitas? Ça, ça va être la suite au prochain épisode. 9 à 38, c'est un peu dur. Peut-être un petit éclair, moi j'ai bien aimé, je sais pas si tu l'as remarqué, le petit ailier Villeneuve, le petit ailier Louis Gobin, qui est originaire de Villeneuve, qui est accrédité d'une bonne participation, d'autres joueurs aussi, mais lui, pour son premier match top 14, pour sa mise dans le grand bain, et vous vous en doutez, pas dans les meilleures conditions, ça a bien sorti son épingle du jeu.
Pour une première, c'était pas évident, mais c'est vrai qu'il a pas démérité. Là, il a fait un bon match. Il a remplacé Janier, qui avait fait deux matchs, pas très convaincants.
Julien Janier n'a pas été très convaincant dans les deux matchs précédents. Après, c'est toujours pareil. C'est l'émulation. Alors, on peut se poser 3000 questions. Moi, je pense qu'il manque un ouvreur. Déjà, un ouvreur de métier, il en faudrait, je vais dire, un de plus. Moi, je pense qu'il manque un leader, mais un vrai leader, un qu'on suit, non pas que le capitaine ne soit pas au jus, mais un leader de jeu, un leader passe-muraille, un leader qui sait remettre son équipe dans le centre de la marche. On a Jordan qui arrive un peu à passer les murailles, à casser les plaquages, mais en fait on est très très limité de ce côté-là. Le président Fontenon, me semble-t-il, si mon petit doigt m'a bien parlé, devrait recruter deux jokers médicaux, parce que la pharmacie est bien pleine, donc peut-être voir arriver deux joueurs pour donner des armes supplémentaires au nouveau staff. Attention, rien n'est perdu, parce qu'on dit bon, Agen n'a plus la maîtrise de son avenir, puisque il faut gagner trois matchs et que les deux personnes devant nous au top 14, c'est-à-dire, si ma mémoire est bonne, Castres et Brive ne gagnent pas. C'est-à-dire qu'il faut que nous gagnions trois matchs pendant le moment où ils perdent, et après on sera à armes égales à peu près pour combattre et pour sortir de cette zone rouge. Maintenant, il reste encore 17 journées dans le top 14, et 17 journées, c'est beaucoup, et il peut arriver beaucoup de choses.
Oui, il faudra aussi peut-être aller récupérer des points à l'extérieur, ce qu'on a perdu à la maison, et ça va commencer par un match important dans 15 jours, ça sera le Stade Toulousain. Là non plus, c'est pas fait pour arranger les choses, Philippe.
Non, le calendrier actuellement n'arrange pas les choses, parce que les matchs à prendre, c'était le Stade Français, c'était Pau, c'était Bayonne, et tous ces matchs-là sont passés, et maintenant on va tomber que sur des grosses cylindrées bien armées, et qui, parce que maintenant on commence à arriver dans une phase où tous les entraîneurs vont dire, il y a des fois on peut mettre une équipe, faire des essais de joueurs, mais tous les entraîneurs vont dire, bon, il faut les gagner à Agen parce que tous les autres vont y aller gagner. Donc, tout le monde va venir pour gagner à Agen. Mentalement, c'est déjà une grosse démarche, que ce soit au niveau des équipes, mais que ce soit au niveau des arbitres, parce que ça paraît pas. Pour en parler, bon, moi, je respecte énormément les arbitres, mais ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et à un moment, on se dit, bon, ben, quand c'est à qui profite la faute, les Agenais, ils sont pas en bourre, comme il y a quelques années, ou comme des fois, on pénalise plus des mêlées d'une équipe ou d'une autre, parce qu'on sait que dans tous les autres matchs, c'est eux. Alors donc, quand on sait pas trop, c'est eux. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'engrenages comme ça qui se mettent en place, et c'est un petit tourbillon qui va être difficile à enrayer, quoi. Il va falloir vraiment. Alors après, le mental, j'ai l'impression que le mental est revenu. Alors des fois on a des trous d'air, comme contre Paris, contre Bordeaux, on a des trous d'air dans notre équipe, mais après mentalement on est prêt. C'est vrai qu'on est poursuivi par la marane, hein, on n'a pas de malchance. Alors après, c'est difficile, hein, d'incriminer des entraîneurs ou pas. C'est jamais évident de réussir l'alchimie. C'est un petit peu comme la cuisine, hein. On met des ingrédients et puis il y a des fois ça tombe bien, et puis il y a des fois on n'y arrive pas. C'est comme ça. Donc changer les entraîneurs, puisque c'est notre prochain sujet, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Les entraîneurs, c'était, il me semble, la bonne solution.
Voilà, pour qu'il y ait un électrochoc. Alors ces entraîneurs, c'est trois personnes qui connaissent bien le SUA, qui sont passées par le SUA, Régis Sonne, Djalil Narjissi, certainement le plus connu au niveau du SUA, et Sylvain Mirande. Pour toi, c'est un bon choix?
Alors, moi j'aurais espéré un ton au-dessus, mais le ton au-dessus, on en a parlé, mais on n'a pas réussi à l'avoir. Après, pour moi, c'est un très bon choix. On a Régis Sonne qui a été agené d'une part, qui s'était mis en retrait du Stade Toulousain, mais qui était quand même dans l'équipe de management du Stade Toulousain, donc c'est quand même une référence, c'est quand même une pointure, qui était allé se retirer un petit peu avec son copain Delo à Blagnac. S'il avait pu l'amener dans ses valises, je pense que ça n'aurait pas été négatif pour nous. Mais les choses ne se sont pas faites comme ça. Ensuite, donc, nous avons un technicien qui a l'habitude du très haut niveau et qui sait parler aux hommes. Attention, hein, faut savoir qui sait un petit peu, parce que le rugby, on le sait, c'est beaucoup d'émotions. Et avec les émotions, on peut bouger les montagnes. Donc, Régis Sonne est quelqu'un de très bien à ce niveau-là. Djalil Narjissi, pour bouger les montagnes, ça, eh bien, c'est pas la peine de lui en parler. Il sait comment on fait. Lui, il revient de Marmande, donc où il a entraîné en fédéral 1 avec un passage juste avant dans le Gers. Dans le Gers.
Oui, à Florence.
Ouais,
exactement.
Donc ça fait déjà 3-4 ans, je sais plus, qu'il évolue quand même avec des bonnes équipes, des équipes de fédéral 1. Lui, son abnégation pour le club, on va même pas lui poser la question. On sait que mentalement c'est quelqu'un de très fort. On sait aussi c'est du vécu. On sait aussi que c'est quelqu'un qui est capable de donner beaucoup dans le sens où à l'époque où c'était le talonneur lead, le meneur de jeu du SULG, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à aller donner de son temps pour les plus petits, pour tout le monde. Donc c'est quelqu'un de fédérateur, c'est quelqu'un qui va amener de l'émotion et de l'émotion réelle dans cette équipe. Et ensuite, Sylvain Mirande qui a mis fin à sa carrière l'année dernière, parce que nous l'avions juste à côté du SULG, puisqu'il évoluait l'année dernière et en début de saison en tant qu'ouverture au RCBB. Bon, après on connaît sa carrière, l'équipe de France, Agen, Brive, on connaît sa carrière, qui est donc un technicien viable, et c'est aussi quelqu'un qui évolue dans l'émotion. Alors on cherchait un petit peu des leaders et une identité à cette équipe. Voilà, on amène trois personnes qui vont très certainement évoluer au chapitre de l'émotion et amener peut-être aux joueurs le petit plus qui manque jusqu'à au début de la saison. Parce que si on regarde bien sur le papier, on a une équipe qui est avec des joueurs de niveau nettement meilleur que les deux ou trois années précédentes. C'est-à-dire que nous avons des leaders comme Jean-Marcelin Butin, comme Camille Girondeau, des jeunes qui ont évolué en équipe de France, qui ont un ton au-dessus, qui ont des titres, qui ont des gros clubs, qui sont un ton au-dessus. Donc on devrait ne pas en être là. Alors maintenant, on pourra parler du confinement. C'est vrai, ça perturbe beaucoup les. Et puis après, bon, mais après, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux de l'entraînement, mais bon, est-ce que l'OSUC a su fédérer son équipe, amener son groupe? Là, on peut pas, ça, c'est, faut être dans le secret des dieux pour le savoir, parce qu'on sait que le même joueur bien amené peut avoir un rendement 40 ou 50 fois meilleur que si, eh bien, on va pas lui parler un peu après le match, si on ne sait pas l'aiguillonner un petit peu de temps en temps ou le mettre un petit peu, pourtant, à Mont-de-Marsan, on sait qu'il a fait du très bon travail, donc, bon, il fallait changer de toute façon, ça, c'est sûr. Je ne sais pas si c'était le bon coach ou pas le bon coach, ça on ne peut pas savoir. Il fallait changer, de toute façon, qu'il soit bon ou mauvais, il fallait créer un électrochoc, et comme on dit, c'est plus facile de changer des entraîneurs que de changer toute une équipe.
Chef Philippe, on revient sur ce match donc Agen RCT rapidement. Il a été évoqué samedi soir après le match contre le RCT, et le club il pense fortement cette descente en Pro D2.
Ouais. Alors la descente en Pro D2, mais moi je suis incapable de le dire.
Ça a été évoqué par le président qui a clairement dit que depuis 3-4 semaines, il pensait bien sûr à travailler aussi pour la descente en Pro D2.
C'est inévitable quand on a 9 points et 10 points d'avance respectivement à cette période de la saison face à des équipes qui sont devant nous et qui sont susceptibles d'être dans le même bain que nous, on ne peut que se poser la question et se demander comment, surtout quand on prend des cartouches comme contre Bordeaux, et puis bon, ben c'est pas des petits scores à chaque fois. Alors bon, ben, bien sûr, il y a le fait qu'on craque. Bien sûr, on peut se demander si on a l'effectif suffisant donc pour pouvoir rester en top 14. Maintenant, moi je crois que l'effectif y est. Alors, j'attends de voir le travail de cette équipe de management. J'attends de voir ce que ça va donner, parce que ça peut changer beaucoup de choses. Maintenant, faut pas se voiler la face. C'est vrai que ça sera vraiment très 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 dur de rester en top 14. C'est sûr. Ouais. Il faut trois matchs gagnés et que par exemple Brive ou Castres ne gagnent pas trois matchs pendant ces temps-là pour revenir à leur hauteur. Et après, ça va être une bagarre où tout le monde va être à la même hauteur, sachant que Castres est quand même venu gagner chez nous. Donc ça peut, mathématiquement, rien n'est fermé. Maintenant, on va pas se voiler la face. On sait tous les ans que on est proche de la dernière marche. On le sait, on sait qu'à Agen, nous n'avons pas le moyen financier, parce que c'est un moyen financier, de figurer parmi les grosses équipes de top 14. Maintenant, les grosses cylindrées de top 14, maintenant, le problème, le SUA fournit énormément de joueurs. Hein, si on fait un petit peu le tour, il y a Quentin Béthune au Racing, il y a Bello et Rito à Toulon. C'est des joueurs formés au club.
Il est parti au Racing, Quentin Béthune?
Comment?
Il est parti au Racing.
Au Racing, au Stade Français.
Ah bon.
Je les contrôle les deux. Au Stade Français, c'est Nyanga qui est au Racing. Ouais. Voilà, tous ces jeunes sont issus de la formation. Il y a Kassan qui fait des miracles au Yonax, semble-t-il actuellement. Des joueurs, il y en a partout, mais le problème, c'est que le SUA, c'est Marchois, je crois, qui part de Pau et qui signe. Voilà, il y a Nickel à Toulouse, Fouille à Toulouse, voilà, des joueurs de la formation à Genève, c'est pas un problème de formation, c'est un problème de sous pour pouvoir garder ces joueurs. Et ça,
oui, c'est le système économique qui, voilà, il y a pas d'argent à Genève, on le sait, on fait avec les moyens. Il y a aussi cette année quand même, on en parlait en début, c'est quand même un handicap de plus, c'est quand même ces cascades de blessures quand même. Ça aurait changé la donne, oui. Ça aurait changé la donne peut-être, je pense, sur les résultats. Là, c'est une année catastrophe au niveau des blessés.
Ah, mais sur certains matchs, quand je vois par exemple qu'à Montpellier, avec le match qu'on fournit les Agenais, il y a 4 blessés en première mi-temps, 4 joueurs sortis en première mi-temps, c'est énorme, parce que le turnover, quand l'équipe d'en face fait rentrer du sang frais vers la 50e, 60e, ben, Agen ne peut plus les faire rentrer puisqu'ils sont déjà dedans. Quand on voit qu'on est obligé de finir contre Toulon avec un troisième ligne dans les trois quarts, parce qu'on a plus de trois quarts à fournir parce que tout le monde est cassé, et quand on voit, ben, ce que je disais tout à l'heure, hein, la grandeur de l'infirmerie avec des noms, quoi. Celui sur qui on comptait beaucoup, Ibitoyer, je crois qu'il a fait 2 matchs et une entrée. Sadi, qui est quand même quelqu'un à tous les niveaux, on n'a pas d'ouverture. Corentin, Jean-Marcelin Butin, on sait que c'est un 15 à la base, c'est pas un 10. Alors il s'en débrouille, hein, il y a pas de souci, mais bon, il nous faudrait une ouverture qui rentre, on a un petit peu Raphaël Lagarde. Moi personnellement, Mathieu Lamouni, et je l'adore, pour moi c'est pas une ouverture. Je sais pas comment il manque, non seulement on a des blessés, mais en plus on a des trous. Donc on a des blessés dans les trous, puisque Raphaël Lagarde est blessé. C'est vrai qu'il y a un peu la marade.
Ouais, et puis on sait l'importance d'un numéro 10 dans le jeu au pied sur un match, hein, donc
ou dans le jeu au pied, ou dans le lancement, ou très souvent le numéro 10 c'est le premier qui a la vue pour aller prendre le trou là où il faut pour faire le décalage. Et là, bon, on est malheureusement, on avait Raphaël Lagarde et Léo Berdeux l'an dernier, et là pour moi en 10 pur il reste plus que Raphaël Lagarde, et qui est tout le temps blessé.
Voilà, on notera aussi la bonne partie de Valentin Sorg qui a été repositionné à l'arrière, qui s'est pas trop mal débrouillé. Qu'est-ce que t'en penses, numéro 15?
D'abord, Valentin Sorg, alors moi ça me fait énormément plaisir, surtout le match qu'il a sorti, parce que Valentin Sorg, c'est aussi, il nous arrive des quatre cantons.
Non,
c'est
pas vrai. Lui aussi.
Et c'était un arrière à la base. Faut savoir.
C'est pas un arrière, non, c'est un ailier, c'est un trois quarts, je crois.
Non, ils l'ont mis en ailier.
Ah oui, c'est un 15.
De formation, c'est oui, un 15. Formation, ouais. Sauf qu'il a jamais été placé en 15. Donc, très très peu. De formation, c'est un 15. En équipe de France, moins de 20 et cadet junior, il jouait en 15. Donc, à la base, c'est un arrière. Et c'est un garçon qui avait besoin de temps. Et là, le temps de jeu lui est donné, et je crois. Alors j'espère. Je crois qu'il est en train de montrer un petit peu ce qu'il sait faire, parce que c'est un garçon qui a d'abord un très bon mental, mais en plus beaucoup de capacités. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Voilà.
Bon, eh ben voilà, il y a quand même du positif malgré cette période très difficile pour les Suédois en tant que résultat, et puis surtout les blessés en cascade des joueurs. Alors que on le disait en début de saison, c'était peut-être cette année, c'était peut-être la meilleure année où il y a eu un recrutement fait pour essayer d'exister en top 14.
Ah là, sur le papier, on avait voilà, on avait une équipe de milieu de tableau de top 14, sans problème.
Ouais, c'est ça.
Sauf que ben voilà, les choses. Alors, il y a aussi à mettre à décharge, c'est que ben il fallait avoir le temps de la moduler avec le Covid, les isolements et tout ça. C'est une équipe qui a pas eu le temps de se préparer, parce que on évolue beaucoup mieux avec une équipe qui joue ensemble depuis un an, deux ans, où on change une ou deux pièces. Là, il y a quand même pas mal de pièces maîtresses qui ont changé, et je pense que la préparation a été pas mal perturbée, mais c'est un fait, sur le papier, nous avions une équipe de milieu de top 14. Alors c'est pour ça que je dis, je mets quand même un bémol dans la descente à Pro D2. Oui, ça va être très difficile, mais non, c'est pas impossible.
Oui, parce que mathématiquement, pour l'instant, c'est pas impossible. On est vraiment qu'au début du championnat de top 14.
Et mathématiquement, et dans la possibilité de progression d'Agen.
Bon, eh bien, on suivra l'affaire.
Il y a une grosse marge de progression qui risque à surprendre beaucoup de monde si les entraîneurs savent les prendre par le bon bout.
Voilà, les entraîneurs qui œuvrent.
Et qui ont un peu moins de blessés.
Oui, 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 oui. Non, mais c'est important. Il y en a eu Lamouli s'est blessé. Il y en a eu un autre qui a eu un. Alors j'oublie le nom. Hein, sur le match du RCT, il y a eu deux nouveaux blessés. C'est vrai que là, ça commence. Bientôt, on va être obligé d'aller chercher l'équipe des quatre cantons pour venir jouer. C'est ça en fait, c'est ce que tu veux me dire.
Exactement, exactement. Non mais regarde, dans les joueurs que je t'ai cités, il y a quand même 11 joueurs susceptibles et qui devraient être en équipe 1.
Ouais,
11 joueurs, c'est pas rien quand même.
C'est beaucoup. C'est vrai que ça aide pas pour la suite du championnat.
Sans compter que Bartomeuf, en début de saison, avait été nommé comme capitaine de l'équipe.
Oui, c'est vrai.
Donc qui est blessé aussi. Ça fait beaucoup de choses. Bartomeuf, c'est un... c'est ce que j'appelle un leader. C'est un mec qui il va toujours y mettre la tête, y mettre. Voilà, c'est ce que j'appelle un leader. Et depuis le début de la saison, ben on l'a pas.
Eh oui. Bon, ben on espère que les blessés reviendront assez rapidement, non? Parce que la suite va être compliquée. Il y a ce déplacement du côté du Stade Toulousain. Il y a des gros matchs qui vont attendre cette équipe du SUA. Et il y a du travail pour le nouveau staff et Régis Stone.
Moi, je crois qu'il faut attendre le début de la nouvelle année pour voir quelque chose. Je crois que ça va se jouer comme ça.
Merci Philippe d'être passé au micro de Coulirec pour nous parler rugby et ton analyse donc sur ce match face au RCT. Merci à toi Philippe.
Allez, à 10 shots.
L'œil de l'expert rugby.